Hey Mimi, mon pinceau, j'entends rien.
C'était ton idée de repeindre des volets et c'est pas le moment. T'as qu'à descendre de l'échelle si tu veux suivre l'agité du local.
Une nappe Vichy, des tomates cerises dans une petite salade de saison et tout ça le long de notre rivière La Mayenne. J'en rêve déjà, vous aussi peut-être, ou alors vous êtes plutôt canoë-kayak ou même marcheur le long du halage ou encore artiste-photographe. Nous fréquentons tous notre rivière à notre manière et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, de ce mercredi, puisque mon invité d'aujourd'hui enquête justement sur les usages contemporains de notre rivière. À mes côtés aujourd'hui, Marjorie Ruggieri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ethnologue et anthropologue et aujourd'hui on échangera ensemble donc sur cette enquête que vous menez auprès des Mayennais. Auprès de vous, car nous sommes nombreuses en studio aujourd'hui, se trouvent Lucie et Lise. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Margot.
Bonjour.
On vous retrouve en milieu d'émission pour un point sur les actualités locales, mais aussi pour un point météo, cette météo qui commence à nous faire, à nous pousser en dehors de chez nous. C'est agréable et c'est pas mal parce que ça met de la bonne humeur sur les visages des uns et des autres. Dans la suite de cette émission, on fait un bond dans le Nord Mayenne à Pré-en-Paille. Lucie, tu t'es rendue à l'Étimbule pour nous parler de cet endroit qui est en fait une archéoferme. Et alors, on le découvrira en seconde partie d'émission avec toi, mais une archéoferme, c'est un lieu qui cherche à faire revivre des techniques de l'ère pré-industrielle et à les transmettre au public. Et enfin, tous les 15 jours, les mercredis, l'agité du local se termine avec une voix que vous connaissez très bien et que l'on aime tous. C'est celle de notre chroniqueuse Soisic qui nous rejoint dans quelques instants pour sa chronique « Un autre écho de l'écho ». Mais je le disais, aujourd'hui, on parle de notre rivière La Mayenne et plus précisément de l'enquête que réalise notre invitée d'aujourd'hui, Marjorie Ruggieri. Alors peut-être que Marjorie, pour commencer, peut-être que l'on peut réexpliquer qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel, puisque l'enquête que vous réalisez, c'est pour l'Office pour le patrimoine culturel immatériel.
Oui, alors peut-être pour revenir, je suis bien anthropologue et je suis chargée de recherche pour cette association, l'Office pour le patrimoine culturel immatériel, qui travaille sur la valorisation, la sauvegarde et la transmission de ce fameux patrimoine culturel immatériel, ou qu'on appelle aussi de plus en plus patrimoine vivant. Alors, il est reconnu depuis la convention de 2003 par l'UNESCO et adopté en France. Enfin, on a commencé à inscrire des éléments de ce patrimoine vivant à l'inventaire national du patrimoine immatériel en 2008 en France. Et donc, on a 501 éléments inscrits. Et on a 7 domaines de ce patrimoine vivant. Ça peut être les arts du spectacle, les langues, les chants, les danses, les recettes, qu'on appelle patrimoine culinaire ou gastronomique aussi. Vous savez peut-être que la baguette a été inscrite à l'inventaire national. Et le repas gastronomique des Français également. On a 24 carnavals inscrits à l'inventaire national, dont le carnaval de Nantes en Pays de la Loire, qui a été inscrit en 2023 par justement mon association, l'OPCI. Et puis voilà, on a un ensemble de domaines variés de ce patrimoine vivant. Et moi, voilà, ce qui m'intéressait dans la rivière, c'était d'étudier, pas seulement parce qu'on a déjà un inventaire qui est mené par le département sur le patrimoine bâti, architectural, les sites et les domaines de villégiature le long de cette Mayenne, cette fameuse colonne vertébrale du département. Et moi, je m'intéresse plutôt au côté humain et donc au savoir-faire, aux pratiques, aux usages, à ce patrimoine vivant autour de qui est vraiment lié au matériel au fond, mais autour de ça, c'est-à-dire on a une écluse, mais on a surtout un éclusier qui maîtrise le savoir-faire, comment on utilise cette écluse, on fait passer les bateaux, on a un moulin, mais on a aussi des pêcheurs qui utilisent à cet endroit précis l'eau, la variation de l'eau, les crues. On a des kayakistes, vous avez dit, on a un ensemble d'usagers et de témoins que j'ai pu interroger lors de cette enquête.
Et justement, cette enquête commence à quel moment? Et alors, quand vous démarrez cette enquête, vous nous avez effectivement regroupé un grand nombre d'usages possibles et de témoins. Par quoi est-ce qu'on commence?
Alors déjà, oui, on commence cette phase, disons, exploratoire à se demander quels sont les usagers, les différents usagers que l'on peut rencontrer du nord au sud de la Mayenne. Ce ne sont pas les mêmes usagers, ce ne sont pas les mêmes usages et pratiques. Déjà, on commence justement par le matériel. On a des ponts, on a des écluses, donc on a des éclusiers. Moi, j'ai commencé avec les éclusiers parce que je trouvais ça intéressant, l'évolution déjà de ce métier d'éclusière. Principalement, il n'y avait que des éclusières, fut un temps. Le métier est passé aux mains des hommes, on va dire. dire, étaient masculinisées. Et les éclusières avaient vraiment un rôle social. Elles faisaient à manger, elles guidaient... les gens qui passaient les écluses, elles guidaient aussi les pêcheurs, elles orientaient pour la pêche, elles connaissaient la biodiversité, mais c'était vraiment un rôle social qui s'est perdu au fur et à mesure. Maintenant, les éclusiers sont aussi regroupés, ils s'appellent les bergers de la rivière, ils sont regroupés en association. Donc il y a quand même encore cette volonté d'avoir ce rôle social et cette cohésion sociale, mais bon, le métier s'est vraiment transformé. Ensuite, je me suis dit quel autre usage de la Mayenne, et il y avait... évidemment les pêcheurs qui me venaient en tête, et puis il y avait l'usage sportif, alors les kayakistes, les triathlètes, les nageurs en palme qu'on connaît beaucoup moins, il y a des nageurs qui nagent en palme dans la Mayenne, à savoir que la Mayenne, on se baignait autrefois en Mayenne, on apprenait à nager dans une piscine qui était remplie d'eau de la Mayenne, et maintenant quand on demande aux gens est-ce que vous baigneriez dans la Mayenne, on a plutôt un rapport paradoxal avec la Mayenne. On la trouve quand même propre, on la trouve attirante, mais on ne se baignerait pas dedans. Il y a une évolution aussi de un monde un peu plus aseptisé aujourd'hui. Donc on a une évolution de la perception même de l'eau et de l'usage de la rivière. Donc ensuite, les usages sportifs, il y a eu aussi, enfin, je me suis dit aussi, les usages récréatifs, c'est-à-dire les randonneurs, les cyclistes, ceux qui utilisent la Mayenne pour se promener, la contemplation aussi de l'eau, et puis les photographes. Et on en parlait tout à l'heure, les photographes, ce qu'ils recherchent plus, c'est vrai, ils ont plus tendance à aller dans le nord, au nord de la Mayenne, où on trouve une rivière un peu plus sauvage, moins domestiquée, plus naturelle. Et donc, du coup, ils ont tendance à photographier la rivière de façon plus romantique, la brume leur plaît beaucoup, donc c'est une vision très romantique de la Mayenne, une vision très particulière, très spéciale. Donc on a vraiment des représentations diverses selon les usages et selon les usagers.
Et justement, j'allais y venir, vous me parlez du Nord Mayenne qui est une rivière, peut-être la partie de la rivière la plus sauvage, parce que finalement on a différents usages, mais on a aussi différents secteurs géographiques tout le long du département. Par exemple, l'utilisation de la Mayenne à l'aval ne va pas être la même que dans une zone beaucoup plus rurale.
Oui, déjà la géologie en elle-même est différente, il y a plus les crues sont différentes, la Mayenne sauvage, elle est plus montagneuse, on va dire. Alors autrefois, on appelait la rivière, Napoléon d'ailleurs l'appelait la rivière noire, c'est-à-dire qu'elle était déjà assez sauvage, vue comme une rivière dangereuse même. Aujourd'hui, avec les barrages, avec la domestication de la rivière, c'est vrai qu'elle nous apparaît plus longéline, plus calme, mais il y a quand même encore des endroits où elle est sauvage. Et puis on a vu avec les crues là dernièrement, il y a eu 7 crues récemment de la rivière. Les propriétaires de camping connaissent bien ces phénomènes de crues et attendent avec impatience que l'eau redescende. Et oui, selon les endroits de la Mayenne, on a des usages différents. Donc les kayakistes aiment bien aller vers Saint-Frembault, par exemple, puisqu'elle est plus haute, plus sauvage. Elle est plus intéressante pour eux à descendre, à pratiquer. Les pêcheurs vont à d'autres endroits. Les promeneurs et les cyclistes, il faut que le halage soit bien intéressant. Donc, entre Laval et Château-Gontier, on retrouve plus les promeneurs et les cyclistes. Dans le nord, plus les pêcheurs et les kayakistes. Il y a quand même... Des zones et d'usages différents.
Et justement, Marjorie, vous parlez des crues parce qu'on parle de différences selon les zones plus rurales ou les zones plus urbaines. Mais il y a aussi finalement les époques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de changement climatique, ce qui change aussi la rivière en elle-même, mais change aussi l'utilisation qu'on en a, la fréquentation qu'on en a de cette rivière.
Oui, alors déjà, il y a les barrages qui ont changé beaucoup de choses. Je disais la domestication. Il y a aussi les usages différents, parce qu'on avait des usines de filature tout le long de la Mayenne qui n'existent plus. Donc, il y avait des abattoirs. Donc, on déversait aussi beaucoup de choses à l'époque. Les eaux usées des hôpitaux, les eaux usées des abattoirs, des usines de filature. Heureusement, on déverse beaucoup moins de choses, on jette aussi beaucoup moins, on a une conscience écologique beaucoup plus importante. Les bateaux lavoirs qui n'existent plus déversaient aussi leurs eaux savonneuses dans la Mayenne. Ceci dit, le savon qui était utilisé, il était beaucoup moins toxique, on va dire, que maintenant. Il y avait moins de pesticides aussi. Donc, on arrive finalement à une eau qui est plus propre aujourd'hui, moins polluée, mais avec l'été, des phénomènes liés au changement climatique importants. Et donc avec des phénomènes de cyanobactéries, l'été, on voit les petites algues vertes, on les sent aussi, l'odeur est assez forte. Mais au final, alors l'eau est moins polluée le reste de l'année. On pourrait se baigner très bien dans la Mayenne. Hein, voilà. Et ce qui m'a intéressé aussi les bateaux lavoirs, c'est qu'on a un collectif de sauvegarde des bateaux lavoirs. On a des petits-enfants, j'en ai pas parlé dans les témoins, j'ai interrogé des petits-enfants, des petits-fils ou des petites filles de ces laveuses qui lavaient le linge dans ces bateaux lavoirs. Et là aussi, on était sur des phénomènes et des lieux de sociabilité incroyables où les laveuses parlaient entre elles, discutaient entre elles. Alors, peut-être chanter. On n'a pas retrouvé des chants autour de ces bateaux lavoirs, mais en tout cas, elles taper la discussion. C'est pour ça qu'on appelle aussi les lavoirs, en Sarthe notamment, et en Mayenne aussi, je suppose, le coin des tapettes, parce qu'on tapait de la langue. C'était un lieu où on bavardait beaucoup, on se racontait les ragots. Donc les laveuses ont raconté beaucoup leurs souvenirs aussi, et c'était, avant l'arrivée de la machine à laver, un lieu de sociabilité incroyable.
Et alors, quelque chose de très intéressant que j'ai pu voir quand je regardais un petit peu les différents points que vous pouvez étudier, si on parle de notre imaginaire par rapport à cette rivière, par exemple, si on remonte un peu dans le temps, les peintures autrefois pouvaient nous amener quelque chose, une image assez romantique de ce que peut être la rivière. Finalement, aujourd'hui, vous nous avez évoqué les photographes. Il y a tout un rapport aussi qui se crée à travers l'imaginaire.
Oui, les photographes qui transportent aussi, enfin qui, qui ont la même représentation. On a les peintures, les cartes postales aussi hein, de l'époque, et on voit bien que c'est la rivière plutôt romantique qui intéresse les peintres et les photographes. C'est pas la rivière industrielle ou la rivière telle qu'on la connaît. La rivière sportive a été représentée pas mal aussi sur les photos et les cartes postales, mais c'est vrai que les photographes en tout cas ont une représentation et donne une image de la rivière, une image d'Épinal, hein, de Laval et de la rivière, assez romantique. Et donc, quand on a cette image, nous-mêmes, on a envie peut-être d'aller vers... enfin, de retrouver la Mayenne romantique, les endroits un peu privilégiés, les endroits un peu où on va être seul face à la rivière, les lieux de contemplation. Et si nous-mêmes, nous prenons des photos de ces endroits et nous les diffusons sur les réseaux sociaux, on va aussi diffuser cette image, donc ça a double sens. Les photographes diffusent cette image, ça nous donne envie d'aller sur des lieux, et nous on va à notre tour photographier ces lieux et les diffuser. Donc voilà, c'est comme ça que des représentations parfois faussées, hein, puisqu'elle n'est pas tout le temps romantique et brumeuse et solitaire, la rivière, se diffuse aussi par les images.
Et alors la rivière, la Mayenne, elle est aussi mise en avant par des événements. Par exemple, on a les illuminations qui reviennent chaque année, les illuminations de Laval. Il y a également le triathlon, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que le département lui-même met en avant cette rivière comme, par exemple, comme attrait touristique?
Oui, bien sûr, là, ils ont compris, et c'est là, ça fait une partie... Du, par exemple du slow tourisme, hein, quand on parle de mobilité douce, le halage, la vélo française, on met en avant évidemment le fait que la rivière, ça fait partie de c'est le paysage principal qui attire, qui peut attirer les touristes, qui peut attirer aussi les néo-mayennais. On a les ofnijacs aussi, hein, qui marchent bien, qui réunissent pas mal, et on a des témoins qui me disent: j'y allais quand j'étais petit avec mes grands-parents, observer ces radeaux qui sortent de carnaval sur l'eau. On a oui le triathlon qui est quand même un gros événement, parce qu'on a accueilli le triathlon, les paralympiques, enfin pas paralympiques, mais voilà, c'est quand même un grand événement sportif qui a lieu depuis pas mal d'années. Et puis oui les illuminations aussi qui drainent pas mal de monde. Et donc oui, il y a vraiment un marketing touristique autour de cette rivière. C'est une image formidable à diffuser et à porter par le département et par les acteurs, notamment les offices de tourisme de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier.
Donc vous recueillez des témoignages, vous avez notamment mis aussi en ligne un questionnaire accessible à tous les Mayennais qui souhaitent y répondre. Oui. Mais vous allez aussi recueillir la parole des enfants. C'est intéressant d'aller chercher aussi chez les enfants. Comment vous voyez cette Mayenne?
Alors, la parole, pas forcément, mais en tout cas, on travaille sur un projet, un parcours d'éducation artistique et culturelle, les PEAC avec la DRAC, que l'on mène aussi dans nos enquêtes avec, j'en ai pas parlé non plus, mais avec les petites cités de caractère. On a le programme Caractère, où on participe aux commissions d'homologation des petites cités de caractère, en Mayenne, en Sarthe, enfin, dans toute la région. On a des inventaires croisés, notamment à la Célie-Château, on a travaillé sur le patrimoine pomologique. Et à chaque fois, on essaye d'avoir la parole des anciens, hein, dans les EHPAD, dans les associations. C'est important, la parole des anciens, mais c'est important de la transmettre, de transmettre ce patrimoine, ces savoir-faire, ces pratiques aux jeunes générations. Et là, à travers ces parcours artistiques et culturels, on travaille avec des classes de Laval. Ce matin, j'étais avec une des classes de Laval de CM1, CM2, avec qui... on explique voilà, ce qu'est le patrimoine autour de la Maine. On va en bord de rivière, on explique la faune, la flore, mais également les usages et les pratiques, le patrimoine immatériel, ce que c'est. Et moi, je leur demande après de me représenter leur rivière en dessin. Dessine-moi ta rivière Mayenne. Et donc, je récupère ensuite ces dessins. Ça a très bien marché en Sarthe avec la ville de Saint-Calais, où on mène un inventaire aussi sur l'Anille, leur rivière, l'Anille. Et on a récupéré des dessins. Voilà, les enfants ont dessiné les lavoirs, les ponts, ce qui pour eux était important, quel sens pour eux avait la rivière. Donc, c'est important aussi d'avoir leur image, parce que c'est l'image du futur, de demain. Donc, voilà, c'est un beau projet.
C'est un beau projet. Et d'ailleurs, le questionnaire est toujours disponible. On mettra le lien sur le descriptif de notre podcast de cette émission que vous pourrez retrouver sur l'autreradio.fr sur la page L'Agité du local. Et donc, on peut espérer avoir donc, des résultats, les différentes données que vous avez recueillies à partir de quand ?
Bah, en fait, ils sont au fil de l'eau. On a des résultats en parallèle de l'enquête. Hein. Moi, déjà, c'est un résultat d'avoir les témoignages de ces éclusiers et de voir qu'il y a une évolution du métier, qu'il y a une perte aussi de ce rôle social. Il y a une perte, les pêcheurs qui ont de moins en moins de compétitions, de concours de pêche et que l'eau s'est transformée et que les poissons, apparaissent de nouvelles espèces aussi. On n'avait pas de castor, on a des castors. On n'avait pas de silures, on a des silures. Ça, c'est des données qui apparaissent au fil de l'enquête. Et donc, je mène en parallèle, j'écris un dossier de recherche qui sera accessible, qui sera donné à la région et au conseil départemental de la Mayenne. Mais aussi, il y aura des mini-expositions, des conférences, donc notamment sous l'angle du sport avec les archives départementales pour les journées du patrimoine là, en septembre. Je participerai certainement au cycle des samedis de l'histoire en janvier prochain, avec les archives départementales. Et puis, il y aura une grande exposition certainement sur la rivière, avec peut-être d'autres acteurs et d'autres chercheurs, notamment Pierrick Barraud qui travaille sur l'inventaire matériel, les domaines de villégiature, etc. On va croiser certainement nos résultats et faire une grande exposition sur la rivière, peut-être 2026. Voilà, ça, c'est toujours des échéances plus longues parce que ça ne dépend pas que de moi, même si j'aurais fini certainement avant. Et le questionnaire en ligne, je pense jusqu'en septembre, octobre, on pourra continuer à y répondre.
Donc n'hésitez pas à vous rendre dès cet après-midi sur l'autreradio.fr, la page L'Agité du local. Vous retrouverez donc le lien pour accéder à ce questionnaire. Merci Marjorie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et donc je vous propose maintenant une pause musicale avant d'écouter Lucie et Lise pour l'actu en bref. On écoute maintenant La 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 La, le groupe La 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 et son titre Siren 042.
Thank you. Place aux actus maintenant et on commence avec un acte héroïque, Lucie.
Effectivement, Damien Guéraud, un Français originaire de Saint-Jean-sur-Mayenne, maintenant installé en Australie, a fait usage d'un grand courage ce samedi 13 avril en faisant face à un homme armé dans un centre commercial de Sydney. L'assaillant avait déjà fait 6 victimes avant que Damien Guéraud ne saisisse un poteau pour s'interposer. Il était en compagnie d'un ami français et l'héroïsme des deux hommes a été salué par Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le Premier ministre australien Anthony Albanese va même jusqu'à offrir la nationalité australienne à Damien Guéraud. Cette proposition risque de changer le cours de la vie du Mayennais. Et en parlant de changement, Lise, que s'est-il passé à Lassay-les-Châteaux ?
Ce lundi 15 avril, lors du conseil municipal, les élus de Lassay-les-Châteaux ont approuvé un premier budget de 3,5 millions d'euros. Cet investissement sera soutenu en partie par un emprunt engagé par la ville.
Et à quoi cet investissement va-t-il servir ?
1,1 million d'euros sera investi dans la réhabilitation de la route de Coutern. Benoît Landais, quatrième adjoint délégué aux affaires financières, ajoute que la ville de Lassay-les-Châteaux attend encore la validation des 650 000 euros pour la création d'un bâtiment pour les espaces verts et des 280 000 euros dédiés à la chambre funéraire.
Mais tous ces engagements ne vont-ils pas perturber les habitants de la commune ?
Jean Rayard, maire de la commune, précise que les élus ont choisi à l'unanimité de ne pas changer les taux communaux d'imposition. Ils envisagent aussi de verser 71 000 euros de subventions à des associations locales. Dis-moi Lucie, tu ne devais pas nous parler toi aussi d'un éventuel projet dans le sud Mayenne ?
Tout à fait, et ça concerne le parc éolien à Dizélis, situé entre Azé, Gennes-sur-Glaize et Bouer. Cela fait 4 ans que le Conseil d'État a décidé de réviser le projet, et tout récemment, un rapace, l'élanion blanc très précisément, a été aperçu sur le site. Pour autant, l'idée de protéger cette espèce n'aura pas suffi à déterrer le parc éolien. En effet, l'arrêté rendu le 12 avril dernier par la Cour administrative d'appel de Nantes affirme que le parc reste dans les normes.
Et on vous emmène dans le nord Mayenne maintenant, à Évron tout particulièrement, pour le Festival de la Jeunesse. C'est une initiative du Trait d'Union et du Nymphéa. Ce festival vise à informer les jeunes sur des domaines variés comme la mobilité, le logement, les loisirs. C'est un événement consacré à l'information. Il aura lieu ce vendredi 19 avril. Il réunira de nombreux organismes comme le planning familial et le service civique. Il est ouvert aux collégiens et aux lycéens de 14h à 16h et à tout public de 16h à 18h30.
Et côté météo, est-ce qu'on garde ce magnifique soleil toute la journée, Lise ?
Malheureusement non, Lucie. Plusieurs averses sont annoncées dans le nord et sud-ouest mayennais pour des températures situées entre 9 et 11 degrés. Le soleil sera donc timide cet après-midi, même s'il fera quelques apparitions dans le sud du département et il y fera entre 12 et 14 degrés. Amis auditeurs, vous échangerez votre parapluie contre un bon plaid ce soir puisque les températures tomberont aux alentours des 7 degrés. Ferons-nous le plein de vitamine D, Lucie, demain ?
Eh oui, la journée commencera avec un grand soleil, mais il fera toujours un peu frais. Environ 6-7 degrés sur l'ensemble du territoire. Le ciel se couvrira partiellement dans l'après-midi pour des températures allant de 12 à 14 degrés. Enfin, un beau ciel qui clôturera cette belle journée de printemps.
Et alors, on le disait tout à l'heure, Lucie, tu t'es rendue à Pré-en-Paille dans le Nord Mayenne.
Et oui, quand je vous dis que j'ai envie d'explorer tout le territoire, je ne rigole pas. Et la semaine dernière, je suis allée donc à la limite nord du département, à côté de Pré-en-Paille, pour visiter l'Étimbule. Ce qui a attiré mon attention là-bas, c'est qu'ils explorent le rapport à l'environnement et l'utilisation de matières naturelles de proximité immédiate à travers des techniques anciennes qui étaient plutôt utilisées avant l'ère industrielle, même à partir de l'ère préhistorique. Dire que c'est un genre de ferme ou lieu pédagogique serait incomplet. Eux utilisent le mot archéoferme, mais je vais laisser Clotilde, cofondatrice du lieu, vous expliquer tout ça.
Alors bonjour, moi c'est Clotilde Béju, je suis salariée de l'Étimbule, je suis permanente. Ma première casquette c'est médiatrice en archéologie, mon autre casquette c'est fondatrice de l'Étimbule. On est un petit peu dans la logique des musées de plein air, à la croisée entre les musées de plein air et les musées vivants, les musées de pays, les musées de patrimoine. Et donc l'archéoferme, c'est un lieu de loisirs, de visites, sur lesquels on essaye de faire revivre des gestes oubliés du passé, parfois très anciens, puisqu'on remonte jusqu'à la préhistoire, c'est un petit peu notre spécificité, mais on va explorer ces gestes et savoir-faire jusqu'à la mécanisation. Donc là, Nico, il est en train de déguiser sa faux. L'Étambule s'est implanté au pied du mont des Avaloirs. On est sur une petite ferme rurale qui a été abandonnée pendant plus de 30 ans. On a encore les bâtiments agricoles. Alors, c'est dans le jus, hein, on est dans la vieille pierre. Et les parcelles agricoles qui étaient sous les ronds, sous les arbres, qui on a réouvert à la main. Sans débroussailleuse, sans pétrole, à la main avec des chevaux aussi qui sont venus nous aider à démoufler, à débarder un petit peu au début. Aujourd'hui encore, c'est soit les animaux qui broutent, soit la faux qui passe. On ne peut jamais tout faire en une journée, hein. Ça nous prend des semaines de faire tout le site, on a à peine le temps de faire le tour que ça a repoussé.
Parmi ceux qui portent ce lieu, la transmission, et surtout la transmission par la pratique, a une place centrale.
Je pense que c'est ce qui nous définit le mieux, parce qu'on a des horizons très différents. On parle d'environnement, on parle de patrimoine, d'archéologie. On n'est pas tous arrivés dans cette association pour les mêmes raisons, mais il y a cette envie qui est commune de partager et de transmettre. C'est une médiation active et présentielle. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec ses 10 doigts, de prendre le temps ensemble d'échanger, de partager, de mettre les mains dans la terre. Il y a vraiment une volonté de transmettre des connaissances patrimoniales, de s'appuyer sur le patrimoine local. On a restitué un four gallo-romain qui est inspiré du site archéologique d'Entrammes. Donc là, il y a une véritable démarche de reconstitution en archéologie. Mais on a aussi fait des cuissons de céramique dans des bidons. L'idée, c'est d'aller chercher ce que le passé a de meilleur. C'est une vie qui était dure, hein. Il n'y a pas d'angélisme quand je dis ça. Mais c'est possible. C'est pas de la nostalgie, quoi. C'est vraiment une source d'inspiration pour imaginer un avenir qui correspond aussi à nos usages actuels. Puisque aujourd'hui, on a les capacités techniques de faire des choses très malines avec simplement l'énergie musculaire et en démultipliant les forces. Donc on s'inspire du passé, mais on rêve aussi à l'avenir.
Quasi tout est fait, à la force des petits bras donc, mais aussi avec la force du collectif. Hormis quand il y a des questions de sécurité, les visiteurs sont invités à participer au chantier du lieu.
L'idée de l'archéoferme, c'est de s'appuyer sur des savoir-faire ruraux anciens, mais aussi des savoir-faire villageois. Donc c'est pas les deux médiateurs de l'association qui vont pouvoir représenter ce village-là. Donc le public, quand il vient, il est avec nous, il est villageois, il va faire la corde qui va servir à hisser la poutre. On fait pour de faux, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'on le fait réellement ensemble. C'est pas une communauté villageoise, mais les gens sont réellement dans cette situation de le vivre et de mettre chacun la main à la pâte. On a beaucoup travaillé sur le bois, les chaînes de travail du bois, hein, donc ça va être plutôt de la menuiserie, l'argile, puisqu'on a de l'argile ici nativement dans le sous-sol, donc la poterie. Cette année, on va travailler les fibres textiles, donc la corderie, le tissage, le filage. Il se passe plein de choses. Il y a des passés, il y a des moments, il y a plein de sources d'inspiration à prendre qui sont différentes. Mais ralentir et ne plus être dans cette course effrénée, prendre le temps de se poser et de se dire quand j'utilise telle ou telle technique ou telle technologie, pourquoi, pour quelle raison. Quand on a percé une planche en chêne avec une chignole pendant un certain temps, on réfléchit à l'arbre, au chêne et à la chaise ou au banc qu'on est en train de construire. Donc forcément, on relativise un petit peu les choses et on va avoir envie d'entretenir ce qu'on a produit, de le faire durer dans le temps. C'est tout un rapport au monde en fait, qui est changé, ne serait-ce que par la technique. Moi, je suis une déco fondatrice avec Nicolas. Tous les deux, on est des néo-mayennais. On n'est pas d'ici, on a eu des parcours de vie différents. Et on a croisé Anthony, qui est lui, pour le coup, le local de l'étape, qui portait cette envie de faire revivre le hameau de campagne, de recréer des espaces de convivialité. Et donc, de ces trois énergies, à un moment donné, est venue l'idée de commencer par une fête. Je suis arrivée, on m'a dit ici, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de patrimoine. C'est un on-dit, hein, c'est pas vrai du tout. Et justement, c'était d'autant plus important, en n'étant pas adossé à un site archéologique, de parler de cette histoire des campagnes, de cette histoire du geste qui est discrète, qui laisse pas de traces, qui a peu de musées, qui est moins présente dans la mémoire collective, et justement de rouvrir les yeux dessus.
L'Étimbule, c'est aussi plein de rendez-vous.
Il y a une vie annuelle, tout le temps, mais qui est discrète, qui est en trame de fond. C'est le Club Nature, donc tous les mercredis après-midi en période scolaire, donc de septembre à juin. On accueille des enfants, soit à les séances, soit à l'année. Hein. Comme on viendrait au club de foot, on peut venir au Club Nature. Donc c'est plus des activités là, qui sont naturalistes, botanistes, mais aussi des bricolages, des jeux, des expérimentations. Donc ça, c'est le petit bruit de fond. Voilà, tous les mercredis, il y a des enfants qui cavalent ici et qui rigolent. Et sinon, le cœur de saison, ça va être d'avril à octobre, puisque c'est un site de plein air. Donc là, on entend les oiseaux, le soleil est là. Le public va revenir tout bientôt, puisqu'on recommence là le 21 avril. Et sur ce cœur de saison, on a des événements réguliers. Donc on participe à des événements nationaux, que ce soit les journées de l'archéologie, journées du patrimoine, plein de choses différentes. Des temps forts avec de la programmation culturelle, des spectacles. La fête de l'Étimbule, donc le festival du 19 au 21 juillet, là, c'est 3 jours de fête. Et puis, l'archéoferme est ouverte tout l'été à la visite pour le public de loisirs et touristiques, tous les jours sauf le jeudi.
Et leur premier rendez-vous à l'Étimbule, c'est donc ce dimanche 21 avril pour le marché. Une très belle ouverture de saison pour eux, avec sur place des artisans passionnés, des jeux, des musiciens. Bref, de quoi passer un bon moment.
Merci Lucie. Et donc Soizic nous a rejoint au studio pour sa chronique. Un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour tout le monde.
Alors Soizic, depuis le 1er avril, la consommation de cannabis à usage récréatif est devenue légale en Allemagne.
Oui.
De plus en plus de pays dépénalisent ou légalisent cet usage pour mieux le contrôler, mais aussi, on va le voir, pour des raisons économiques.
Et oui, tout à fait. En Allemagne, la consommation de cannabis pose un usage récréatif donc. Alors, elle l'était déjà, contrairement à la France, pour les usages thérapeutiques. Mais donc, pour un usage récréatif, eh bien, c'est autorisé pour les adultes. Elle a été adoptée en février par le Parlement allemand. La loi autorisant donc la possession de 50 grammes de cannabis par mois est donc entrée en vigueur le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Les personnes majeures résidant en Allemagne peuvent aussi cultiver jusqu'à 3 plants pour leur propre usage. Et à partir du 1er juillet, des associations de culture pourront également proposer du cannabis à la vente. Alors, après l'Uruguay, le Canada, Malte et le Luxembourg, eh bien, l'Allemagne devient le 5e pays à légaliser totalement l'usage récréatif du cannabis, auquel il faut d'ailleurs ajouter plusieurs États américains et indiens. Alors, plusieurs autres pays, plusieurs dizaines même d'autres pays, ont dépénalisé le cannabis, comme les Pays-Bas, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud. Mais attention, ils ont dépénalisé et non légalisé, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dans ces pays, tenez-vous bien, la consommation est autorisée, mais la production y est toujours interdite, ce qui fait qu'elle provient toujours du narcotrafic. Il y a quand même des trucs un peu bizarres sur cette terre. Alors, si la prohibition des drogues, dont le cannabis, remonte au début du XXe siècle, depuis le début du XXIe siècle, la libéralisation, donc dépénalisation ou légalisation, du cannabis gagne du terrain, reposant sur l'idée qu'un encadrement de la consommation du cannabis présente plusieurs avantages, y compris économiques.
Tout d'abord, le coût de la prohibition est prohibitif.
Oui, tout à fait. Alors, la prohibition, c'est donc 200 euros d'amende en cas de consommation. Donc, on peut dire que ça rapporte des sous. Il y a 150 000 interpellations par an. Mais il y a 568 millions d'euros annuels pour lutter contre la diffusion du cannabis. Donc, ça coûte quand même très cher et les amendes ne couvrent absolument pas. Et sur ces 568 millions, eh bien seulement 8% part à la prévention. Donc, malgré une politique criminelle parmi les plus répressives d'Europe, eh bien la France a le taux le plus important de consommateurs de cannabis de l'Union européenne.
Il faut donc changer de méthode.
Eh bien oui, et c'est ce que nous dit Terra Nova, un think tank qui nous dit que le plus efficace serait effectivement de dépénaliser son usage et de légaliser sa production. Donc finalement, comme en Allemagne, le tout dans le cadre d'un monopole public. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, quant à lui, estime le marché du cannabis à au moins 1,2 milliard d'euros, ce qui fait que la taxation du dit marché pourrait rapporter gros à l'État et générer un double dividende, comme disent les économistes, c'est-à-dire d'une part des rentrées fiscales pour la prévention et d'autre part, bah évidemment, diminuer les dépenses liées à la répression. Alors, par ailleurs, la légalisation génère des toujours selon les économistes, des externalités positives, à savoir, par conséquent et sans le vouloir, une baisse de la violence et de la criminalité, évidemment en raison d'un affaiblissement des réseaux criminels. Et ça, c'est le Conseil d'analyse économique chargé de conseiller le Premier ministre dans une note de 2019 qui le disait. Donc vous voyez, on ne peut pas les accuser de laxisme, de 68-ardisme ou de bolchevisme. Enfin, la légalisation permet aussi de contrôler la qualité des produits et de savoir finalement ce que l'on consomme. En Allemagne, par exemple, il faudra que le cannabis soit bio.
Mais alors, quel pourrait en être le prix ?
Eh bien, sur le marché, il faut effectivement trouver un juste prix. Alors, si le prix est trop élevé, ça ne va pas, parce qu'il ne permet pas d'assécher le marché illégal. Par exemple, comme pour les cigarettes en France, hein, parce que les cigarettes, le prix augmentant, eh bien, on a de plus en plus de trafic, notamment aux frontières. Mais si le prix est trop bas, eh bien, il ne permet pas de rémunérer correctement ni les producteurs, ni les vendeurs de cannabis, et ce qui fait que ça pénalise l'émergence d'une offre légale rentable. Alors, le CAE, donc, qui conseille le Premier ministre, hein, je l'ai dit, eh bien, a fait des recommandations pragmatiques et il estime que 9 euros le gramme d'herbe, toutes taxes comprises, contre 11 euros environ sur le marché actuellement, serait le bon prix.
Mais il doit y avoir des critiques à cette légalisation ici.
Eh oui, bien sûr. Alors, la première critique, c'est le risque d'une hausse de la consommation du cannabis, et c'est effectivement le cas pour quasiment tous les pays qui ont dépénalisé. De plus, le comité interministériel de lutte contre les stupéfiants dans un bilan de 2021 montre que la légalisation n'empêcherait pas forcément la création d'un marché illégal de cannabis, même au juste prix, parce que certains consommateurs rechercheraient des concentrations de THC, le principal composé psychoactif du cannabis, bien supérieur au niveau légal. Enfin, la plupart des partisans d'une légalisation, alors ça c'est tout le monde, souhaite interdire bien sûr l'usage du cannabis aux mineurs, parce que on sait aujourd'hui les effets nocifs du cannabis sur le cerveau des jeunes, là tout le monde est d'accord, les pour et les contre. Or, nous disent ceux qui ne sont pas d'accord, une légalisation donc couplée obligatoirement à cette interdiction de consommation par les jeunes pourrait décupler le trafic illicite en direction de ces mineurs. Là, pour le coup, l'argument n'est pas recevable parce que la France est passée du premier rang pour la consommation de cannabis des 15 ans en 2014 au 10e rang en Europe 2018. On pourrait dire que c'est parce que l'on a justement mis une politique de répression en place. Pas du tout. Les études montrent que si les jeunes boivent moins d'alcool et fument moins de cannabis, c'est parce qu'ils sont moins souvent dans les lieux récréatifs publics et plus souvent tout seuls devant leur écran. Donc fumer ou boire sans les copains, finalement, c'est pas toujours intéressant. Conclusion, quoi faire ? Est-ce qu'il faut continuer comme aujourd'hui ? Là, au moins, on est sûr que ça fonctionne pas, hein, parce que les marchés illégaux sont envahis. Tenter une consommation plus encadrée qualitativement, quitte à prendre un risque quantitativement au niveau des consommateurs. Eh bien là, Margot, je vais laisser chacun se faire sa propre opinion.
Merci beaucoup, Soizic. C'est un plaisir de vous retrouver dans notre studio. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Marjorie d'avoir été avec nous. Merci aussi évidemment à Soizic. Merci Lise et Lucie. Et donc, nous sommes mercredi 17 avril et comme chaque mercredi, la soirée s'annonce musicale.
Et ça commence à 19h avec Novorama qui propose une sélection de nouveaux albums indie rock pop électro. Au programme, chronique, interview d'artistes émergents.
Et ça continue avec The Voice of Cassandra.
Oui, à 20h, on écoutera des mixtapes et des playlists de différents artistes.
Chaosphère prend l'antenne à 21h.
Et ce soir, la Grèce est à l'honneur, comme souvent d'ailleurs dans cette émission.
Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle Agitée du local. Et demain, nous parlerons musique baroque avec Laure Barre, conseillère artistique du Festival de Sablé, qui nous parlera de la prochaine édition du festival. D'ici là, lisez, cuisinez, écoutez-vous et surtout, continuez à faire le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.